Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième saison du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2025-2026, après déjà 35 entretiens que vous pouvez réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur les sites d'AEF Info et de FNEJ Média. Mon nom est Sarah Pieuvesan, je suis journaliste pour l'agence de presse AEF Info et aujourd'hui je m'appuierai sur les lumières, l'expérience, la profondeur de vue et la grande sagesse de mon co-intervieweur de choc, Bernard Amanantsou, doyen honoraire d'HEC Paris qui représente ici la FNEJ. Bonjour Bernard.
Bonjour Sarah.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, surtout après ce que je viens d'entendre.
Bernard, non seulement nous entamons une nouvelle saison du Grand Oral aujourd'hui, mais en plus nous célébrons une forme d'anniversaire puisque nous recevons à nouveau notre toute première invitée, celle qui a essuyé les plâtres de ce podcast en juin 2023, alors qu'elle n'était que, entre guillemets, directrice générale de Neoma Business School. Et cette invitée, c'est Delphine Manceau. Bonjour Delphine et merci d'être de retour derrière ce micro.
Bonjour Delphine.
Bonjour Sarah, bonjour Bernard.
Alors Delphine, nous sommes en septembre 2025. Vous êtes toujours DG de Neoma Business School, mais depuis 3 mois, vous arborez une deuxième casquette, celle de présidente de la conférence des grandes écoles, où vous avez été élue en juin pour un mandat de 2 ans. C'est à ce titre que nous vous avons convié pour nous parler des sujets qui font l'actualité de cette rentrée, mais aussi des grands chantiers qui s'ouvrent devant vous, car il n'aura échappé à personne que 2 ans de mandat, cela nous mène à 2027 et donc à une échéance politique majeure. Alors en guise d'introduction, Delphine, redites-nous un peu ce qui caractérise, ce qui définit une grande école, parce que à ma connaissance en tout cas, ça n'est pas un titre protégé, ça n'est pas un label. C'est quoi exactement ?
Alors, la conférence des grandes écoles regroupe 250 établissements et 500 000 étudiants, pour vous donner un petit peu le spectre, avec 3 grandes catégories de grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de management et ce qu'on appelle les écoles de spécialité, qui sont toutes les autres, mais qui couvrent des domaines aussi variés que l'enseignement des sciences politiques, des écoles d'art et de design, des écoles autour de la gendarmerie, donc des choses extrêmement variées. Qu'est-ce qui caractérise, quel point commun entre tous ces établissements ? Je pense qu'il y a une certaine culture de l'excellence, probablement à ce terme que le mot « grande école » est le plus rattaché, mais aussi une forte proximité aux entreprises, une pédagogie assez innovante, une activité de recherche qu'on ignore parfois mais qui est présente dans un très grand nombre de grandes écoles, une activité internationale importante. Au total, la conférence des grandes écoles rassemble 23% d'étudiants internationaux. C'est quand même assez important. L'importance de la vie étudiante aussi. Dans une grande école, on apprend non seulement en cours, mais aussi à travers tous les projets qu'on développe en tant qu'étudiant, les activités sportives, associatives. Et puis peut-être pour finir, une certaine agilité. Les grandes écoles sont souvent dans un domaine de spécialité et elles sont, je pense, assez agiles en tant qu'établissement d'enseignement supérieur.
Elles ne sont pas multidisciplinaires comme peuvent l'être les universités. Mais donc, il n'y a pas de protection du terme grande école. C'est-à-dire, n'importe quelle école, quelle qu'elle soit, pourrait s'auto-baptiser grande école. Vous n'avez pas de rôle de protection, de défense du label.
Non, ce qui est important, c'est d'être membre de la conférence des grandes écoles. Ça, c'est très régulé. Pour devenir membre, on passe par un processus d'évaluation. Et donc, c'est ça le label. C'est membre de la conférence des grandes écoles. Le mot grande école, il est dans le domaine public. Même parfois, quand on est... Voilà, d'autres personnes peuvent se prétendre grande école. La marque de fabrique, c'est la CGE, justement.
Donc, il faut regarder, en fait, si une école, sur un salon, par exemple, qui se présente grande école, est membre ou pas de la CGE.
Oui, et je trouve que c'est d'ailleurs un très bon indicateur, parce que dans un secteur qui est assez peu lisible pour les jeunes et les familles, où il y a beaucoup de labels et il faut souvent être un petit peu initié pour s'y retrouver dans tous ces labels, le fait d'être membre de la CGE, cela envoie un signal très fort. Donc moi, j'encourage vraiment les familles ou les jeunes qui pourraient nous écouter à regarder ça, parce que ça nous distingue d'organismes qui peuvent employer le mot sans forcément remplir les critères de qualité auxquels nous tenons.
Sachant que la CGE, c'est une association loi 1901, en fait. C'est tout simple.
Absolument.
Ok. Parlez-nous un peu de l'ambiance générale de cette rentrée 2025 dans les grandes écoles, dans ce monde qui est quand même très instable et très fracassé autour de nous. Quelle est la couleur ou la petite musique que l'on entend sur vos campus en ce moment? Comment vous sentez vos étudiants, vos profs?
D'abord, nos étudiants sont heureux. En général, ils sont heureux de rejoindre une grande école. Ils sont fiers. Moi, c'est un moment que j'aime toujours beaucoup. Les campus reprennent vie et les jeunes sont toujours très joyeux d'arriver, avec parfois un petit peu, pour les nouveaux, un petit peu d'inquiétude. Mais très vite, ils rentrent dans la fameuse vie étudiante des grandes écoles. Et donc, moi, c'est un moment que j'aime énormément et je crois que je partage ça avec l'ensemble des directeurs de la communauté. Cela étant, le contexte général est un contexte d'incertitude, d'incertitude géopolitique internationale, d'incertitude politique nationale et aussi d'incertitude sur les évolutions du secteur. On a un certain nombre d'établissements qui ont rencontré des difficultés dans leur recrutement, que ça soit en post-prépa ou en post-bac. La démographie se stabilise. Elle n'est pas encore en train de s'inverser, hein, mais elle se stabilise après des années de croissance. Et en même temps, on fait face à des changements, qu'ils soient technologiques, écologiques, géopolitiques, qui font qu'on doit changer ce qu'on enseigne. Et on fait face à un environnement qui est en train de changer. Donc oui, le secteur fait face à des bouleversements importants aujourd'hui.
Mais vous ne sentez pas vos étudiants particulièrement inquiets? Ça ne transparaît pas dans leur comportement ou...
Non, il y a une anxiété de la jeunesse, c'est clair, de manière globale, mais je pense que pas plus dans les grandes écoles qu'ailleurs.
On disait en introduction que vous commencez votre mandat de présidente de la CGE. Donc ce premier mandat, il y en aura peut-être d'autres après, ça nous amène à 2027. Donc vous rentrez, j'allais dire, dans ce moment de campagne des élections présidentielles. Qu'est-ce que vous allez porter comme message? Quels sont les débats que vous aimeriez voir émerger? Et quels sont les messages que vous aimeriez porter vis-à-vis des futurs candidats à la présidentielle?
D'abord, un premier message, qu'il est essentiel d'investir dans notre jeunesse. Je pense qu'elle est dans son éducation. Je pense que la priorité à l'enseignement supérieur, à l'accompagnement et à la formation de la jeunesse dans un contexte d'anxiété, on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. Donc je crois que c'est vraiment un premier message. Il va de soi, mais pas tant que ça. Quand on regarde les programmes des candidats au cours des présidentielles passées, le sujet de la jeunesse n'était pas forcément toujours en haut de la pile. Donc ça, c'est le premier message qu'on voudrait porter. Le deuxième message, c'est le fait que les grandes écoles et l'enseignement supérieur en général sont là aussi pour construire la compétitivité, la souveraineté de notre pays et de l'Europe. Et dans un contexte international et économique incertain, c'est en ayant des jeunes très bien formés et en les gardant dans notre enseignement supérieur ou en attirant des jeunes du monde entier qui soient les meilleurs, qu'on va aussi avoir les compétences pour nos entreprises et pour notre économie. Donc cela introduit directement la question de l'international. Je l'ai dit, une caractéristique des grandes écoles, c'est leur forte dimension internationale. Il est important pour nous de pouvoir continuer à attirer des talents du monde entier. C'est important pour nous parce que ça permet aussi d'ouvrir les esprits de nos étudiants français. Mais c'est aussi très important pour les entreprises qui ont besoin aujourd'hui de talents et de compétences. Je pense qu'on a aussi un vrai sujet autour de la réindustrialisation de la France sur la formation des ingénieurs, sur le fait qu'il faut aussi avoir davantage de jeunes femmes dans la tech. Si on pense que ce sont les secteurs d'avenir, c'est quand même très embêtant. En tout cas, pour moi, c'est un gros sujet de préoccupation de voir si peu de femmes aujourd'hui dans les sujets et dans les formations autour de la technologie, de l'IA et de l'ingénierie.
Alors, moi, je voulais vous poser une question sur la jeunesse, qui va être un électorat spécifique, hein, comme à chaque élection, et que les candidats vont devoir aller chercher. Donc cette jeunesse, je ne vais pas la mettre dans un seul paquet, elle est multiple, elle est protéiforme, certains font des études, certains n'en font pas, certains vivent en ville, d'autres à la campagne. Bon, mais on a l'impression que, comme la société tout entière, elle est quand même traversée par une forme de radicalité, que ce soit vers l'extrême gauche pour une partie d'entre elles, et notamment dans l'enseignement supérieur, ou vers l'extrême droite pour une autre partie, qui est importante, sinon, si on en croit les sondages, en particulier chez les peu ou les pas diplômés. La semaine dernière, la Croix Hebdo titrait sur ces jeunes qui rêvent d'un pouvoir autoritaire. Les événements internationaux les préoccupent. Ils expriment parfois violemment leur position. On l'a vu sur le conflit israélo-palestinien, qui a donné lieu à des manifestations très tendues sur certains campus. On voit l'augmentation terrifiante des actes antisémites et racistes dans les établissements du supérieur. Est-ce que vous, vous percevez cette radicalité chez vos étudiants? Est-ce qu'il y a des comportements nouveaux, des postures, des attitudes?
Bon, alors d'abord, les jeunes ont toujours été plus radicaux que les générations plus âgées. C'est pas nouveau. Cela étant, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la capacité des jeunes à débattre. C'est-à-dire que s'envoyer des posts sur Instagram, parfois un peu agressifs, est devenu un comportement que beaucoup de jeunes croient normal. Et je crois que là, on a un vrai rôle en tant qu'institution d'éducation, apprendre à s'écouter, apprendre à débattre, apprendre à être en désaccord. Je pense qu'il est indispensable que tous les établissements soient extrêmement fermes sur toutes les dérives que vous évoquez et qu'on apprenne à nos étudiants à discuter. Donc moi, en tant que directrice d'établissement, ça m'est arrivé de convoquer des étudiants qui avaient pu avoir des comportements que nous jugions totalement inadaptés. Et puis de les réunir, de leur dire « Écoutez, ça ne se passe pas comme ça ici, maintenant, apprenez à vous écouter et à débattre. » Alors, quand c'est à grande échelle, c'est compliqué. Mais l'enseignement supérieur est le reflet de la société. Et je crois que notre rôle, c'est justement aussi de la faire évoluer.
Est-ce que vous réfléchissez à la place des réseaux sociaux, dont on entend beaucoup parler, mais j'ai l'impression qu'en cette rentrée, c'est vraiment ça, ça revient beaucoup, ces boucles, ces posts qui sont poussés et qui en fait nous confirment dans nos propres argumentations, positions et qui nous font presque perdre pied avec la réalité parfois. On voit que les téléphones portables sont de plus en plus... dans les lycées, par exemple, on expérimente des journées sans portable et tout ça. Est-ce que, dans l'enseignement supérieur, on commence à réfléchir à l'usage des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus toxiques?
En fait, ce qui est étonnant aujourd'hui, et c'est que les réseaux sociaux sont la principale source d'information des jeunes. Hein, donc voilà, et les médias courent un peu derrière. Alors quand TF1 court après TikTok, c'est quand même un petit peu perturbant en termes de pratique et de... Et donc, à nous aussi, là encore, d'apprendre à nos étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas depuis cette année, nous, ça fait plusieurs années qu'on organise des ateliers avec les étudiants pour leur apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux et les mettre en garde. On parle beaucoup d'apprendre aux jeunes à utiliser l'IA, à ne pas être dupe des biais qu'entraîne l'IA. Je pense qu'on aurait dû le faire sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. On le fait un petit peu, mais peut-être pas à l'échelle que cela mérite.
On sait que, enfin on sait ou on ne sait pas, mais vous avez des grandes responsabilités au sein de l'organisme d'accréditation américain, qui s'appelle la ACSB, hein, vous êtes membre du board. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment les Américains réagissent au sujet qu'on est en train d'évoquer? Comment ils réagissent aux attaques trumpistes contre l'enseignement supérieur? Comment ils réagissent contre les politiques dites « woke » Comment ils réagissent par rapport à la question de la discrimination positive?
Je pense qu'ils ont été. Je pense que l'arrivée de la nouvelle administration américaine dans ses nouvelles pratiques, a été très rapide et un peu inattendue par l'ampleur et la rapidité des mesures mises en place. J'avais un board début février aux États-Unis et à l'époque, on en parlait encore pas énormément en France, mais j'avais été très frappée par les témoignages de mes homologues dans des business schools américaines sur la manière dont ils devaient rapidement changer leurs pratiques. Cela change aussi de manière très concrète des financements de recherche sur certains sujets, qu'ils soient environnementaux ou liés à la diversité. Cela change certains curriculums. Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a une présence forte, ça dépend beaucoup des États. Ce qu'on ne mesure pas bien vu de France, c'est que d'un État à l'autre, d'une université à l'autre, selon les dirigeants, selon les liens avec les pouvoirs publics de l'État en question, c'est extrêmement variable. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils se sont adaptés. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les visas d'étudiants et de professeurs internationaux qui se demandent si leurs visas vont être renouvelés. Bon, et puis ils attendent les prochaines échéances électorales pour voir si les choses se poursuivent ou si elles changent, et donc les élections au Congrès.
Ils font le dos rond, j'ai l'impression, un peu,
oui,
non ?
Ouais. Un petit
on
peu,
sent
c'est mon sentiment.
Ils attendent que l'orage passe, sans trop savoir où ça va les mener quand même. Venons-en au sujet de rentrée en France, et notamment à ce thème de l'explosion des frais de scolarité dans les grandes écoles de commerce. Alors, c'est pas nouveau, mais plusieurs médias grand public en ont fait leur une, là, à la fin de l'été, début du mois de septembre. Notamment parce que HEC a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 70 000 euros pour son programme grande école. Néoma, d'ailleurs, quel est le coût des 3 années de PGE ?
15 000 euros par an, donc 45 000.
45 000, et ça
quand
augmenté...
on n'a pas de bourse, et on a, nous avons plus de 25% d'étudiants boursiers, donc qui ont des aides financières pour financer leurs études. Et quand on inclut les étudiants qui font un parcours en apprentissage, et qui donc ont des aides financières également, on arrive à 30%, plus de 30% d'étudiants qui sont aidés financièrement. Je pense qu'il faut toujours, on donne toujours les frais de scolarité boursiers, il faut toujours mettre en relation la part des étudiants qui sont aidés aussi.
Mais ça reste une majorité de vos étudiants qui payent ces sommes-là, ou en tout cas leurs parents. Jusqu'où ça peut aller à votre avis ? Est-ce qu'il y a un seuil psychologique à ne pas franchir pour que ça reste acceptable par les familles ?
Honnêtement, je ne sais pas. C'est une question qu'on se pose depuis des années. On croit toujours qu'on a atteint le seuil et en fait ça continue. Moi, je pense qu'il faut surtout comprendre un petit peu les raisons de cette évolution. D'abord, dire qu'elle n'est pas spécifique aux écoles de commerce, même si on parle des écoles de commerce aujourd'hui, mais pour certaines études de sciences politiques, d'art, on est à des niveaux annuels qui ne sont pas très éloignés des chiffres dont nous parlons, voire parfois supérieurs. La deuxième chose, c'est que dans le domaine des écoles de commerce, moi, ce qui me frappe, c'est que l'État ne finance pas les études en management en France. Il finance des écoles d'ingénieurs, il finance des universités, il finance les IAE, mais les écoles de management ne sont pas du tout subventionnées. Elles l'ont été pendant longtemps à travers les chambres de commerce, ça n'est plus le cas. Et donc, les écoles de management françaises ont fait le choix de l'excellence et dans la compétition internationale. Je rappellerai que dans le dernier classement Financial Times, qui est paru début septembre, sur les 100 premiers Master in Management, on a 25 programmes des business schools françaises. Donc, la France est le pays numéro 1 et représente un quart du top 100. C'est assez remarquable dans un pays qui se critique souvent et qui parfois a l'impression de perdre de sa puissance et de son excellence. Je pense qu'il faut saluer cette performance des écoles de management françaises dans leur ensemble. Donc c'est vrai que pour être très haut dans la compétition internationale, ça implique beaucoup de coûts et c'est pour, dans un modèle économique non subventionné, cela implique d'augmenter les frais de scolarité.
Mais est-ce que vous ne pourriez pas faire mieux avec moins ? Être plus économe d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas du gâchis, des dépenses un peu...
Non, je ne crois pas. Je crois qu'on investit à la fois beaucoup dans la vie étudiante, dans les nouveaux campus, beaucoup dans le corps professoral, d'un corps professoral très international. Donc il faut
qui coûte
ça,
cher.
Qui coûte cher et qui fait beaucoup de recherche. Et la recherche en management aussi coûte cher. Et donc, encore une fois, je pense que... Alors, tout l'enjeu, c'est que ça n'exclut pas les familles, que ça ne les dissuade pas, et aussi que tous les étudiants, quel que soit leur milieu d'origine, aient accès à nos études. C'est ça vrai enjeu.
Justement, je sais que vous n'aimez pas cette idée, mais les business schools pâtissent déjà d'une image d'établissement pour gosses de riches, entre guillemets. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette hausse continue et qui arrive quand même à des sommets aujourd'hui, continue encore plus ? C'est-à-dire que vous ayez une image encore plus de milieux un peu étriqués, repliés sur un petit cercle de cadres qui peuvent financer ces études-là pour leurs enfants ?
Moi, sur ce sujet, j'ai un credo, c'est quand je vois des familles, je leur dis toujours, vous, votre objectif, c'est de réussir le concours. Nous, dirigeants d'école, on trouvera toujours des solutions pour que vous puissiez financer vos études. Je pense que les écoles de management investissent énormément dans les bourses, on en a un petit peu parlé. Il y a aussi beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui prennent des emprunts et les écoles négocient avec les banques pour que les conditions soient très favorables. Et les débouchés sont là, donc c'est un... J'allais dire, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie, c'est dans ses études. Et aujourd'hui, je crois que c'est un engagement collectif qu'on peut prendre en tant que dirigeant de grandes écoles. On trouve toujours des solutions pour financer des études quand elles ont lieu dans des très bons établissements.
Alors, toujours en lien avec cette hausse des frais de scolarité, pour certains, on peut y voir quand même un paradoxe. Les frais de scolarité augmentent. Et puis, on commence à entendre une petite musique. Alors, Jérôme Méric, le président de la CEFDG, disait dans ce podcast avant l'été qu'il y avait des faillites possibles dans le monde des écoles de commerce. C'est un thème qui a été repris par le directeur de l'EDEC, Emmanuel Mété, il y a quelques semaines dans un interview dans la presse. Alors, on va vers où ? On va vers des faillites ? Du coup, on va vers une restructuration ? Ou vous pensez qu'on joue à se faire peur ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui sont pris un petit peu en étau entre deux forces. Le fait que la qualité coûte cher, c'est ce qu'on disait, pour faire de la recherche, pour investir dans la pédagogie. Vous évoquiez la CEFDG. Pour être gradé, visé, il faut avoir une certaine part des cours qui sont enseignés par des professeurs permanents. Donc, un corps professoral permanent, ça coûte cher. Et donc la qualité coûte cher, ça fait partie de notre secteur et le ministère nous y encourage et c'est très bien. Mais en parallèle, on a un nombre croissant d'organismes que je qualifierais pas d'écoles et encore moins de grandes écoles qui distribuent des RNCP, qui ne jouent pas le jeu des critères du ministère de l'enseignement supérieur, qui n'ont pas de corps professoral, parfois même pas de locaux, et qui quand même distribuent des certificats, se disent reconnus par l'État, parfois même bénéficient de financements publics de l'apprentissage et qui ont un modèle économique complètement différent. Et en fait, ils dépensent en marketing et en communication ce que les établissements de la Conférence des grandes écoles dépensent en corps professoral. Enfin, voilà. Et donc, on a des établissements qui, aujourd'hui, se retrouvent coincés en ayant des difficultés à avoir une activité équilibrée du fait des contraintes liées à la qualité, mais qui en même temps sont attaqués de plein fouet par ces établissements au marketing redoutable. Et je pense qu'il y a un risque que certains de ces établissements renoncent à leur grade, à leur visa, renoncent à cette qualité et passent dans l'autre catégorie que la CGE pendant longtemps ne regardait même pas, puisque ce n'est pas le même groupe concurrentiel et on n'est pas dans le même univers. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces deux univers se télescopent et qu'effectivement, il peut y avoir des établissements qui vont y renoncer, changer de modèle économique et d'activité. Alors, est-ce qu'il y aura des faillites ? Est-ce qu'il y aura des regroupements ? Ça, on verra. Mais en tout cas, moi, je suis préoccupée par le fait que certains établissements aient du mal à remplir et renoncent à la qualité.
Mais est-ce que la Conférence des grandes écoles ne devrait pas aussi battre sa coulpe ? On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'autorégulation. C'est-à-dire, on voit des augmentations d'effectifs, on voit qu'il y a plus de candidats, mais on voit qu'il y a plus d'écoles en même temps qui ne remplissent pas. Comment vous expliquez ce manque d'autorégulation au sein de la CGE ?
Alors, d'abord, l'autorégulation, elle existe. Alors, elle se fait plutôt par type d'établissement. Donc, pour ce qui concerne les écoles de management dont on parle aujourd'hui, ça se passe plutôt au niveau de la CDEFM. Mmh. Et cette année, nous avons pris la décision collective de ne pas augmenter le nombre de places ouvertes à l'issue du concours prépa. Donc, cette autorégulation, elle existe. C'est vrai qu'il y a eu une tendance, une montée en taille des établissements pour des raisons d'économie d'échelle et de modèle économique, plutôt à travers la démultiplication des programmes d'ailleurs, mais la régulation, elle existe au regard justement du contexte dont je vous faisais part cette année.
Restons deux secondes là-dessus. Comment ça s'articule le rôle de la CGE et le rôle de la CDEFM ?
De manière très naturelle. Comme je le disais, dans la Conférence des grandes écoles, il y a des établissements de nature différentes. Si je prends le cas des écoles d'ingénieurs, elles sont membres de la CGE, mais elles sont en général également membres de la CDFI. Donc, et il y a une régulation qui est faite par la CTI qui régule l'accès au titre d'ingénieur. Et bien, par symétrie, au niveau des écoles de management, donc, elles sont membres de la CGE, elles font partie également de la CDEFM, où sont discutées les problématiques spécifiques aux écoles de management, comme les places, comme les classements des écoles de management. Et puis, elles sont régulées par la CEFDG.
CDEFM, conférence des directeurs des écoles françaises de management, je le précise parce qu'on a beaucoup de jargon dans ce podcast, et CTI, commission des titres d'ingénieurs. Chère Delphine, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Pour prolonger un peu toutes ces réflexions, nous vous avons demandé de venir avec un conseil de lecture.
Oui, alors moi, je lis peu de livres sur les écoles de management parce que c'est plutôt mon moment de respiration et d'ouverture. Mais j'ai choisi de vous parler d'un livre plutôt sur un sujet sociologique. Ça s'appelle « Les flamboyantes » de Charlotte Montpezat. Et c'est un sujet qui c'est un livre qui parle de la manière dont les femmes, à partir de 40-45 ans, disparaissent un peu du monde économique et même de la société, où elles deviennent invisibles, dit Charlotte de Montpezat. J'ai trouvé ça très intéressant et comme je sais que ce podcast est écouté par des dirigeants d'écoles et d'universités, je voulais sensibiliser mes collègues à cette question. Donc,
vous êtes un contre-exemple, Delphine.
Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est important d'en parler, que je peux en parler.
Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir au Studio Module aujourd'hui. Merci aussi à vous, Bernard, de m'avoir accompagné. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.
Au revoir.